Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec une émission qui va vous parler de films qui sont en salle depuis le 16 juin. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez chacun un film, c'est pas dans le même genre, toi Guillaume, ça va être L'Effroi.
Oui, moi c'est Quiet Place, hein, Sans un bruit 2 de John Krasinski.
Et toi Manu, c'est un film d'action.
Oui, Un homme en colère de Guy Ritchie, remake du film de Nicolas Boukrieff.
Quant à Marine, elle nous parlera de La Nuée, film fantastique français, et puis aussi de Douce France, qui est un documentaire voilà, dont la sortie avait été retardée, hein, comme le précédent film. Et puis, on en profitera avec un tel sommaire, notamment deux films vraiment avec, où l'horreur est convoquée, eh bien, pour faire un blind test spécial film d'épouvante horreur. Voilà, donc c'est le jeu de cette émission qui débute donc avec un homme en colère. Alors, on avait Albert Dupontel dans le film de Nicolas Boukrieff, hein, et nous avons gagné Jason Statham dans le remake américain du Convoyeur. Et quand je dis gagné, bon, c'est quand même osé. Un homme en colère, tu nous en parles maintenant, Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Portico Security est spécialisé en transport de fonds à Los Angeles.
Est-ce que tu sais à quel point ce boulot peut être dangereux?
J'en ai une petite idée.
On n'est pas les prédateurs, on est les proies.
Loin de considérer Guy Ritchie hein, comme un auteur, hein, ce qu'il n'est pas et n'a jamais été, on peut lui accorder le fait qu'il possède un tout petit style, hein, ou du moins qu'il essaye depuis ses débuts avec Arnaque, Crime et Botanique en 1998. Alors influencé par Tarantino, notamment, hein, la forme publicitaire et le clip vidéo, privilégiant donc un montage ultra rapide, des plans courts et une narration chronologiquement éclatée, le cinéaste anglais célébré pour son pénible snatch n'a pourtant jamais convaincu, coincé dans sa case de petit faiseur à la mode, capable parfois, par accidence néanmoins, de livrer des bons produits de consommation courants comme le premier Sherlock Holmes et surtout le très graphique des agents très spéciaux. Alors la suite poubelle, hein, surtout lorsqu'il s'attaque à un projet aussi ambitieux que le roi Arthur, hein, de loin son pire navet, bouffi de prétention et de révisionnisme, appauvri par une mise en scène d'une laideur absolue. Alors en revisitant l'excellent Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff, dont il est plutôt une variation sur un même thème plutôt qu'un remake littéral, Un homme en colère se range dans la catégorie des bonnes surprises, et ce dès les premiers plans tendus où Ritchie fait preuve d'un sens de l'espace et du cadre sans avoir recours à ses habituels pénibles ralentis et ou accélérés, et surtout cette déflagration de plans cut empilés en dépit du bon sens. En adoptant donc un style plus classique, laissant enfin le montage respirer, s'inscrire dans une durée relativement longue. Alors, longue, on passe de 1 seconde d'habitude à 3 ou 4 cette fois-ci. Hein. On n'est pas non plus chez Malick. Alors, Guy Ritchie trouve paradoxalement un vrai sens du rythme, accompagnant un scénario, hélas, inutilement parfois tarabiscoté. Alors, inutilement car au fond, hein, l'histoire reprenant les grandes lignes du film français est très basique. Hein. Un convoyeur de fond taciturne, fraîchement engagé, se fait remarquer par ses collègues lors d'une attaque à main armée. Alors son sang-froid impassible et la précision de ses tirs face à des braqueurs expérimentés laissent ses collègues interloqués. Alors qui est-il? Alors bien sûr, sans rien dévoiler, même si on devine beaucoup de choses assez rapidement, il n'est pas là pour se la couler douce en acceptant un boulot tranquille. Le thème de la vengeance est bien le nerf du récit et il apparaît très rapidement, contrairement au film de Boukrieff. Et la présence de Jason Statham ne laisse planer aucun doute quant à ses motivations.
T'es prêt?
Ouais.
Ça, c'est ton arme de poing.
Il se passe quoi si des mecs nous attaquent au fusil d'assaut?
T'as un problème?
J'en ai un, tu crois?
Ça aurait dû prendre 10 minutes, il devrait déjà être là depuis 5 minutes.
Il déconne pas!
Je m'en occupe.
Envoie dans le camion la prochaine fois!
Désolé, mec.
Qui se tarait?
un truc pas net. On dirait qu'il veut que les camions soient braqués. C'est pas un flic.
Alors si c'est pas un flic, c'est qui ?
Sur une mission, il y a quelque temps, on avait perdu deux gars et un civil.
Il y a eu une enquête.
Et ils ont pas chopé le salaud qui avait fait ça.
Doggy !
Vous aviez promis de faire l'impossible. Mais d'après ce que je sais, vous n'avez fait que tout votre possible.
Mais péché mignon, hein, comme on ne se refait pas, Ritchie prend un malin plaisir à emberlificoter tout ça, triturant la narration avec des allers-retours dans le temps, épuisant d'ailleurs avec des 5 mois après, 15 jours avant, 3 mois plus tard, 3 jours plus tôt, rappelant parfois la débilité narrative de Anna de Luc Besson. Alors en malaxant les axes narratifs, se croyant plus malin que la moyenne, le cinéaste passe en partie à côté d'un excellent film d'action sec et brutal. La pseudo-déconstruction ne fait qu'alourdir et ralentir le rythme, devenant même sursignifiant à plusieurs reprises. Il doit alors, Ritchie a dû penser, se trouver malin en filmant une séquence vue de deux points de vue différents, sauf que ces moments sont prévisibles et très appuyés, n'apportant rien au récit, évinçant tout hors champ possible, tout effet de suggestion. Mais passé ces affaîtries diégétiques, une manie pénible depuis Pulp Fiction, hein, Un homme en colère demeure un polar efficace où l'on sent le réalisateur très à l'aise lors des scènes d'action, alors surtout la dernière demi-heure, hein, offrant une belle lisibilité spatiale au spectateur. Il parvient à rendre crédible aussi son acteur principal, Jason Statham, hein, alors comédien au potentiel très limité, mais exerçant une fascination un peu homo-érotique, assez sidérante de film en film. Avec sa voix rauque, son expression figée et sa présence physique imposante, il est aussi parfait que caricatural, alors ni sympathique, ni antipathique dans le rôle d'un anti-héros obsédé par sa quête de vengeance. La psychologie se situe évidemment à un degré zéro et aucun personnage secondaire ne retient réellement l'attention, à part peut-être Guy Pearce en ex-militaire braqueur, hein, plutôt sobre et nuancé. Mais on passe un bon moment à regarder cet homme en colère qui, une fois n'est pas coutume, n'a pas eu le tort de me mettre en colère, contrairement à certains films du réalisateur anglais.
À noter que Jason Statham, son personnage, il s'appelle Ash.
Ah oui.
Oui, très étonnant. C'est... Enfin, il n'a pas de prénom, enfin bon... Oui, oui.
Non, mais je ne sais plus. Il me semblait qu'il il donne son prénom à un moment.
Ah, peut-être, mais pas à ses employeurs.
Voilà, pas à ses employeurs.
Et ça n'étonne personne. Enfin, j'ai l'impression que par rapport au remake, il y a quand même eu de quelques ajouts, notamment des actions punitives pour de la part de son gang, notamment, hein, qui va
voilà,
rechercher.
Je pense voilà. Qu'ils ont étoffé les personnages autour du gang de H, essentiellement.
Ouais. Mais et pour ajouter dans plutôt de l'horreur et de l'action.
Voilà, et dans l'original, c'était plutôt un personnage solitaire. Mmh.
Allez, on change de sujet. Le premier volet de Sans un bruit était discret et efficace. Qu'en est-il du retour des bestioles qui vous repèrent au moindre bruit ? C'est toi qui nous parles, Guillaume, de Sans un bruit, la partie 2.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va ?
Tout va bien, chérie. Ça va ?
Maman ?
Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi ça ?
À la manière de tous les succès des films d'épouvante ou d'horreur de ces 40 dernières années, John Krasinski donne une suite 3 ans plus tard, bon en fait 2 mais chute hein, parce que c'est pas très Covid, au carton surprise de sa toute première incartade dans le genre A Quiet Place ou Sans un bruit chez nous. Il faut dire que plus de 340 millions de dollars de recettes pour un budget d'à peine 17, bah, ça donne envie de rechatouiller du monstre. Mais qu'en est-il de l'intérêt du spectateur ? Eh bien le moins qu'on puisse dire c'est que tout se joue ou presque dans une scène d'introduction aussi tendue que spectaculaire qui vous rappellera si besoin est à quel point un film se voit et s'entend dans une salle de cinéma. C'est même l'une des intros les plus marquantes de récente mémoire, car même si à l'image du film elle n'est pas particulièrement originale, ben bon sang, elle est d'une efficacité à toute épreuve. Alors je sais que c'est une phrase bateau, mais là ça déménage vraiment.
Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. Il ne reste plus rien.
Pitié. Il y a des gens dehors qui méritent d'être sauvés.
Vous ne savez rien. Moi, je sais.
John Krasinski avait prouvé avec le premier film et qu'il était un élève appliqué. Le réalisateur débutant avait très honnêtement avoué s'être imprégné le plus possible de ce type de production pour en comprendre l'essence et arriver à mettre en scène une histoire qui tienne la route et qui réussisse ses effets. Pour le second opus, il met logiquement la barre un petit peu plus haut et, malin, va taper à la porte de deux des plus grandes productions de ces 20 dernières années, tous médias confondus. Les deux influences tournent autour de la difficile question de la survie et des barrières à franchir pour protéger les siens. La première est rien de moins que La Guerre des Mondes version Steven Spielberg. À part si vous avez vécu sous une autre planète depuis 2005, vous avez l'obligation de connaître le chef-d'œuvre de l'homme à la casquette, brillant à la fois dans sa relecture de ce grand récit séminal de la science-fiction, mais aussi plus beau film sur le traumatisme du 11 septembre et analyse lapidaire des comportements des hommes lorsque la terreur vient frapper à leur porte. Krasinski reprend l'un des plans signature du barbu, le plus célèbre d'Hollywood, avec ses travelling en avant lors d'une découverte ou pour souligner l'émotion naissante sur un visage alors que l'impensable est sur le point d'exploser d'une seconde à l'autre. Le deuxième acte de Sans un bruit 2 peut même être vu comme étant une relecture de la tétanisante scène de la cave, presque refaite en intégralité. Bon, c'est bien sûr bien moins virtuose, mais on sent l'envie du réalisateur de développer ici les choses mises en suspens dans le premier film, à savoir cette manière de montrer toutes les facettes de l'intime de l'homme de tous les jours face à une menace extraordinaire.
Les gens qui restent ne valent pas la peine d'être sauvés.
Seconde influence, énorme, est celle, non pas d'un film, mais presque, le jeu vidéo The Last of Us du studio Naughty Dog. Là aussi, Krasinski s'inspire d'un poids très lourd dans sa catégorie, car The Last of Us, qui, si on exagère un poil, est quasiment un film interactif tant il est bien écrit et est l'un des jeux vidéo les plus respectés qui soit et dont l'impact du premier volet se fait encore ressentir dans la production mondiale, autant dans les jeux que dans les films de genre. Pour ceux qui ne connaissent pas The Last of Us, c'est un peu la route de Johnny Depp qui rencontre 28 jours plus tard de Danny Boyle, filmé par Clint Eastwood. Il est ici aussi question d'une famille recomposée et mutilée par un bouleversement mondial et qui devra apprendre à vivre au jour le jour en se méfiant de son entourage et des conséquences déchirantes des actes que l'on entreprend pour assurer sa survie. Une bonne partie du récit nous fait réfléchir aux limites qu'on serait prêt à ignorer pour aller sauver celui ou celle qu'on aime. Tout l'incroyable troisième acte du jeu tournait autour de cette question avant d'en arriver à un déchirement absolu et d'une noirceur peu commune pour le joueur, d'habitude plutôt conforté par les solutions violentes. Bien sûr, Sans un bruit 1 comme 2 n'arrive pas à recréer ce déchirement, car il reste assez grand public, mais Krasinski met beaucoup de cœur à l'ouvrage, encore une fois, et en plus, on sent qu'il a des enfants avec Emily Blunt, parce qu'ils sont en couple en fait dans la vraie vie. Emily Blunt, d'ailleurs, plus que jamais montrée comme une lionne, une mère de famille désormais seule à gérer sa tribu, et qui va suer sang et eau, en ne sachant pas jusqu'où elle peut accorder sa confiance à un nouveau venu joué par Cillian Murphy. Murphy boucle justement la boucle, lui qui est un habitué de l'apocalypse. Rappelez-vous du film qu'il a fait éclater au grand jour, qui n'était rien de moins que l'excellent 28 jours plus tard de Danny Boyle mentionné plus haut. Cette suite, plus orientée action, dont une scène très très tendue dans un port, laisse quand même quelques défauts pointer le bout de leur nez, avec quelques approximations d'écriture, sans grande vraie gravité, et une manière de monter en parallèle une action avec une autre de manière un petit peu trop mécanique, ce qui amoindrit forcément l'impact du procédé, surtout pour la grande scène finale. Mais que cela ne vous empêche pas d'aller le voir, car il n'y aura que dans la salle de cinéma que vous entendre crier prendra tout son sens.
À noter, Guillaume, que ce film, tu l'as vu dans des excellentes conditions, parce qu'on parle souvent de films de cinéma, et celui-ci se voit davantage au cinéma. Tu l'as vu en IMAX,
oui.
Et comme ça repose sur des créatures qui repèrent, qui détectent les bruits, l'infime bruit qu'on peut faire. Évidemment, je sais que certains ont des dispositifs sonores absolument époustouflants, mais il n'empêche que parfois la salle de cinéma est le meilleur endroit pour voir les films.
Ouais, je l'ai vu en IMAX et ça nous rappelle qu'on peut avoir un beau home cinéma, ça n'a rien à voir. Et que tout le film étant tourné vers cette perception, en fait, c'est pour ça que je mentionnais en particulier la scène d'ouverture qui est entièrement millimétré sur la perception du héros, mais donc du spectateur aussi qui découvre en même temps l'apocalypse qui est en train de se créer. Donc j'en dis pas plus, il faut le voir.
Et en tout cas, ceux qui n'ont pas vu le Sans un bruit 1, eh bien, il est à conseiller effectivement aussi. Il vaut mieux le voir avant. Alors celui-ci, évidemment, ce sera plus compliqué de le voir dans une salle de cinéma. Sans un bruit 2 avec Emily Blunt, c'est en salle depuis le 16 juin, tout comme La Nuée de Juste Philippot. Là, c'est pas du tout la même horreur auquel on est confronté. Alors, il faisait partie, ce film, de la sélection de la semaine de la critique Cannes 2020, qui n'a jamais eu lieu. C'est un drame fantastique aux accents horrifiques. Et bien, La Nuée nous raconte comment l'élevage de sauterelles comestibles déraille. Et juste après ça, la chronique de Marine, on se retrouve avec un blind test spécial épouvante.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
T'as vendu combien à ce que je voulais?
Qu'est-ce qu'il y a? Un problème?
Moi, je peux pas travailler avec des quantités comme ça.
Virginie est une mère de famille célibataire qui a fait un pari osé, misé sur l'élevage de sauterelles qui bientôt, elle en est sûre, constitueront l'alimentation du futur. Mais elle ne peut pas à elle seule élever tant de sauterelles qu'elle le voudrait et ne peut honorer les quantités que ses clients lui demandent. Un jour, elle glisse et tombe dans son élevage. À son réveil, les insectes se sont abreuvés du sang qui coule de sa blessure et semblent étrangement en forme. Virginie va alors basculer dans l'obsession jusqu'à la folie.
C'est crazy business.
Bientôt, il n'y aura plus à bouffer. Vous êtes trop cons pour vous en apercevoir.
Ça va?
Quoi? T'as pas l'air bien, là.
Prix du public à Gérardmer en 2021, le premier long métrage de Juste Philippot est une réussite en tout point. La Nuée s'affirme comme un thriller agricole à l'instar de Petit Paysan, comme un film liant cinéma fantastique et problématique sociale. Ici, la métaphore à peine dissimulée est celle du mal-être paysan, symbolisée par la souffrance physique de l'héroïne prête à tout pour faire survivre son élevage, quitte à se laisser dévorer par son travail. La Nuée est avant tout un film d'ambiance. Malgré quelques plans chocs, le film ne bascule pas ou si peu dans le body horror. L'angoisse repose sur de gros plans de sauterelles, animal qui apparaît comme furieusement cinégénique. L'angoisse repose également sur l'utilisation du son et notamment sur l'amplification de la stridulation des insectes, car la sauterelle stridule. Et enfin, cette distillation de l'angoisse doit beaucoup également à l'interprétation des comédiens Sofiane Kames et Souliane Brahim de la Comédie Française. Avec un rôle fort, complexe, de femme déterminée jusqu'à la folie, Souliane Brahim crève l'écran dans ce qui est l'un de ses premiers rôles au cinéma et prouve que tradition théâtrale et cinéma de genre peuvent fusionner de la plus belle des manières. Ajoutons que les effets spéciaux, sans être omniprésents dans le film, sont très bien réalisés. Résultat, eh bien, le film parvient à parler avec force de la mutation de l'agriculture en France, un domaine qui se féminise et qui se précarise également, avec, on le rappelle, un agriculteur qui se suicide chaque jour. C'est la profession qui possède le plus haut taux de suicide en France.
La Nuée, film de Juste Philippot, est en salle depuis le 16 juin. Ce film, et puis Sans un bruit 2, dont on a parler juste avant, nous donne l'occasion de jouer avec les films d'épouvante pour un blind test.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors, il est évident que le cinéma d'épouvante est un cinéma, j'ai l'impression, plutôt rentable. Hein, donc, il y a quand même de nombreux films qui ont été faits. Donc, ce blind test n'est évidemment qu'un petit aperçu de la production mondiale. Allez, premier extrait. Normalement, c'est facile.
Il doit y avoir un moyen de le tuer lequel? Comment peut-on faire?
Vous ne pouvez pas.
Je lui dis des conneries.
Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire? Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité.
Tu l'admires, n'est-ce pas?
J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité.
Un film qui a fait date.
Alien de Ridley Scott.
Oui, film de 1979. La lutte de l'équipage d'un cargo spatial face à une créature extraterrestre inconnue et agressive qui chasse les 7 membres du vaisseau pour les tuer. 2,8 millions d'entrées en France quand il est sorti à la fin donc des années 70. Et puis, eh bien, 76 000 de plus pour la version Director's Cut de 2003. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai jamais vu, d'ailleurs. Oui, vu.
J'ai vu. Ça, oui, comme, pas bien. Comme pour beaucoup de Director's Cut, ça ne porte pas énormément de choses, on va dire. C'est plus du révisionnisme pour consolider le sentiment du réalisateur qui, à la base, veut avoir une vraie maîtrise d'auteur, en fait. Mmh. Mais, parce qu'il y a toujours des conflits, en fait, avec des scénaristes ou des producteurs qui sont quand même plutôt vedettes, hein, sur ce genre de projet. Et le directeur Scott Delian ne déroge pas trop à la règle, en fait. Mmh. Et Ridley Scott, il a un gros melon.
Voilà, c'est dit. Deuxième extrait, donc, on joue à trouver des films d'épouvante.
C'est bon. Les pompiers frappent à la porte de l'appartement d'où proviennent des cris. La police est arrivée sur les lieux peu de temps avant nous et...
Madame, c'est la police.
Restez bien derrière moi, éteignez cette lumière.
Envoyez-nous immédiatement une ambulance. Parfait. Ça va aller.
La situation ici devient intolérable. Il y a d'ores et déjà deux personnes mortes.
Les sorties ont été bloquées.
Surtout, tu continues à tourner.
Angoissant, terrifiant.
Terek, de Romé Balaguerro et Paco Plaza.
Oui, film sorti en 2007. Angela, journaliste qu'on entend pour une télévision locale, est accompagnée de son caméraman pour suivre les pompiers. Alors que la soirée s'annonce calme, ça commence par... ils font du basket, je crois, au début. Elle prend une tournure horrifique quand les pompiers sont appelés pour intervenir dans un immeuble. Ou, allez, on va le dire comme ça, des personnes se sentent mal. Film réalisé selon le principe du found footage, la caméra qu'on retrouve par terre. Hein. On y voit une séquence qui dure 22 minutes sans interruption. Les seules coupures entre les scènes sont l'arrêt momentané de la caméra, sa chute ou des retours sur image. Et à noter qu'il existe deux fins alternatives à Rec. Elles ont été écrites dans le but de duper les acteurs afin de garder jusqu'au bout le secret autour de la véritable fin du film. Le film a fait l'objet d'un remake américain en quarantaine, sorti en octobre 2008 et qui reprend plan par plan Rec avec des acteurs américains. Et puis
trois suites.
Le premier volume donc de cette saga, on va l'appeler comme ça, a réuni 786 000 spectateurs en France. On continue à jouer à ce blind test pour découvrir des titres de films d'épouvante.
Je ne comprends toujours pas, en fait, pourquoi on va au Winchester.
Parce que c'est un pub et qu'on y sera tous en sécurité.
Et ils nous connaissent.
Et dis-moi ce qui en fait un endroit sûr.
Les portes blindées, les serrures de sécurité, tu les as vues quand on a été joué.
C'est vrai.
Et il y a un fusil au-dessus du bar.
C'est une antiquité.
Sûrement.
Et ça n'empêche pas de fonctionner. John a des amis dans la mafia.
Ouais, mais le Graal, il dit aussi que les chiens ne lèvent jamais les yeux.
Il n'y arrive pas.
Tu crois ça?
J'en suis sûr.
Ils peuvent, idiot.
T'en es sûr?
Écoutez,
je sais
que le pub est un endroit parfait. Je vous assure que tout va bien se passer, je vous le promets.
Chose.
J'ai éteint la radio, d'accord?
C'est pas facile.
Quoi?
Être un père, c'est pas facile.
Et le père se sent mal dans cette scène, c'est trouvé?
C'est Shaun of the Dead, d'Edgar Wright.
Oui, j'ai voulu mettre une comédie, film de 2004, sous-titré en France, une comédie romantique avec des zombies. C'est exactement ça. Premier film de la trilogie Blood and Ice Cream, suivi par Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Shaun donc partage son temps entre son pub favori, son boulot de vendeur et délaisse sa petite amie qui aimerait le voir grandir. Et une invasion de zombies va changer les choses. C'est avec Simon Pegg et Nick Frost. Seulement 126 000 entrées en France.
Alors, il y a une anecdote qui est amusante, c'est que le film a tellement plu à George Romero, qui était la source d'inspiration d'origine, que Romero a invité Simon Pegg et Edgar Wright à faire des figurants zombies dans Land of the Dead qu'il a tourné un an plus tard. Donc si vous regardez attentivement vers un quart d'heure de film, là, il y a une espèce de nightclub, vous verrez deux zombies accrochés à un mur qui essaient de mordre des gens, c'est eux deux.
Ça fait deux films à regarder. Allez, quatrième extrait.
Salut, qu'est-ce que vous faites au lycée ?
Ah, j'ai une table de beer pong et un fût de 10 litres de Bud Light au frais, si ça vous tente de vous mettre à l'envers.
Non, ce soir, je peux pas. J'ai un devoir d'histoire à rendre sur les routes maritimes de l'Afrique, du coup...
Ouais, tous ces bateaux avec notre peuple dans leur ventre, je suis dans le vrai ou pas, Frangine?
Mais pour les autres, c'est OK.
Non, ça va pas le faire. Je finis trop tard demain.
On se passera de vous, messieurs. Et vous, les filles, vous voulez vous ambiancer comme des rockstars ou quoi?
Non, faut que je nettoie la maison avant que ma mère arrive. Une autre fois, peut-être.
C'est bizarre, ça. Vous bossez jamais?
Si. Et je vais être obligée de travailler plus puisque vous n'avez pas de temps pour moi.
Yo, t'as trop besoin d'un mec.
Yo, attention comment tu me parles.
L'ambiance paraît amicale, puis elle l'est plus du tout. Et donc, je pensais que vous auriez trouvé, mais c'est vrai que c'était Marine qui l'avait chroniqué, ce film. C'est un film récent. Un groupe d'adolescents qui se lie d'amitié avec, allez, on va dire, une dame d'âge moyen qui vit seule à la campagne.
Ma, oui.
C'est ça.
Ma. Que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais je vois bien ce que c'est, oui.
film de Ted Taylor, sorti en 2019. Et donc, cette fameuse Ma les laisse faire la fête dans le sous-sol de sa maison. Mais cette amitié, eh bien, va se transformer en un véritable cauchemar pour le groupe d'adolescents. C'est un film Blumhouse qui a réuni 305 000 spectateurs en France. Dernier extrait de ce blind test spécial épouvant.
Il vous a menti, docteur, en disant que nous partions pour Hollywood. Ce qu'il y a de plus affreux, c'est qu'il est devenu un adepte à présent. Il dort en pyjama maintenant, il n'en portait jamais avant. Sans doute pour cacher une marque. À tous, on leur fait une marque quand ils entrent dans la secte. Et ils observent toutes sortes de rites. Ils font des sabbats, docteur. Souvent, à travers le mur, je les entends qui chantent. Guy, mon mari, m'a dit que c'était le docteur Chand, un autre de leur bande qui faisait marcher un vieux phono. Puisqu'il était au courant de la présence du docteur Chand, c'est donc qu'il était avec eux, n'est-ce pas? Vous savez, ils sont forts, ces gens-là, terriblement forts. Tout est prévu d'avance, jusque dans les plus petits détails. Il est probable que mon mari a conclu avec une sorte de pacte. Ils lui ont offert la réussite et il leur a promis notre enfant en échange pour leur cérémonie de sorcellerie. Oh, je sais que ça doit vous paraître insensé, mais j'ai apporté des livres qui parlent de ces questions.
Trouvé, Guillaume.
C'est Rosemary's Baby de Roman Polanski.
Oui, sorti en 1968, adaptation cinématographique du roman Un bébé pour Rosemary, d'Ira Levin avec Mia Farrow et John Cassavetes. Une jeune femme enceinte dans Manhattan suspecte que ses voisins plus âgés se servent de son bébé pour l'utiliser dans un culte satanique, conspiration, paranoïa, folie. Comment savoir, il faut regarder. Oscar 69 de la meilleure actrice dans un second rôle pour Ruth Gordon. 1,3 million d'entrées en France pour ce film marquant de l'histoire du cinéma. Ainsi s'achève ce blind test consacré au film d'épouvante. On va se quitter avec un documentaire qui n'a rien à voir avec l'épouvante. Jugé plus tôt, des élèves de Seine-Saint-Denis se lancent dans une enquête sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d'urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. C'est Douce France de Geoffrey Coinon et c'est Marine qui nous en parle.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Comment vous faites le lien entre votre vie future, votre travail futur et ce projet? Ce projet EuropaCity.
Matin, on va commencer à réfléchir aux questions qu'on va poser à ceux qu'on va rencontrer.
Représentez-vous ce qu'ils veulent construire ici, qui est plus grand que tous les bâtiments que vous voyez ici.
80 hectares.
Tout ça.
Oh, ah non, mais c'est monstrueux, là.
Il va y avoir un parc aquatique, un parc des neiges, un parc de la glisse.
Ah, nous, on est en première et on travaille sur quelque chose qui s'appelle EuropaCity.
Ce sera un grand centre commercial qui va faire toute cette taille. T'en penses quoi?
Geoffrey Coinon, qui est aussi animateur d'ateliers au sein du lycée du 93 et du 95, réalise avec 12 France une enquête passionnante à la fois sur la jeunesse, sur la transformation de l'agriculture et des terres agricoles en France. Nous suivons ainsi Amina, Samy et Jennifer, trois jeunes de 17 ans, tous trois issus de l'immigration, qui incarnent la France de demain au cours de leur enquête sur un projet d'immense centre commercial. Appelé EuropaCity, ce centre commercial est tout d'abord un symbole, celui du capitalisme bien sûr, mais aussi le symbole de l'adolescence, l'endroit où les jeunes peuvent passer du temps, se retrouver à moindre coût pour discuter ou faire du shopping. Et puis EuropaCity, c'est aussi la possibilité de faire du ski avec des pistes créées en banlieue parisienne pour des populations qui ne peuvent souvent pas aller à la montagne en hiver. Sauf qu'en réalité, eux qui sont plutôt enthousiasmés par le projet vont réaliser qu'il se fera au détriment des terres agricoles qui seront ainsi urbanisées. La problématique est la suivante. Durant le temps de projection du film, c'est-à-dire en 1h35, l'équivalent de 15 terrains de foot seront urbanisés en France. En cours d'année, c'est environ 1400 hectares de surface agricole qui disparaissent alors que des millions de logements sont en même temps laissés vacants.
Vous croyez vraiment qu'aux champs, ils ont quelque chose à faire, des jeunes de Gonesse, de Villepinte, d'Aulnay-sous-Bois et de Sevran?
Pour nous, on se dit, il n'y a personne qui fait rien sur ce truc, on va bétonner, c'est simple.
Parce qu'en fait, quand t'as jamais vu un champ, c'est normal de te dire qu'on s'en fout de foutre un centre commercial dessus, j'imagine.
On fait un métier digne, qui nourrit les gens d'à côté, qui crée du lien social.
Peut-être qu'on valoriserait plus les terres si vraiment... On se nourrissait de là.
Il nous a expliqué l'agriculture bio, tout ça.
Ici, c'est encore du luxe, le bio.
Grand prix du festival du film d'environnement mérité, Douce France nous emmène dans le sillage de ces trois adolescents qui mènent leur enquête pour se forger leur propre opinion. Comme eux, le spectateur réfléchit, s'interroge et découvre. Avec eux, nous rencontrons des personnes qui incarnent une nouvelle agriculture, autant de personnages de la vraie vie, réfléchis, humanistes, débordant de réflexion et de sensibilité. En dehors de son indéniable portée pédagogique, 12 France est également un bel objet cinématographique afin d'interroger leur place dans cet environnement urbain et campagnard. Le réalisateur a accumulé près de 200 heures de rush afin de les filmer jusqu'au point de leur faire oublier la présence de la caméra. Et Geoffrey Cuanon a filmé également les trois adolescents en grand format, en cinémascope, offrant au film de très beaux plans qui rendent hommage à la France dans toute sa diversité.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine et tu nous feras retourner dans l'horreur, Manu.
Oui, comédie horrifique plutôt, avec Freaky.
Et puis toi, Guillaume,
je vous amène dans le land des années 70 avec Cruella.
À la semaine prochaine.